Chapitre 22. C'était parce que M. Darverne se savait violent qu'il se modérait, et c'était parce que Mme Darverne se savait calme qu'elle poussait toujours ses fantaisies jusqu'au bout. Qu'une lutte s'engagea, le mari était certain à l'avance qu'il s'emporterait et se laisserait entraîner loin, tandis qu'à l'avance aussi, la femme savait très bien que par la modération, elle conduirait les choses où elle voudrait et qu'elle aurait le dernier mot. D'ailleurs, elle connaissait son pouvoir et elle n'était pas femme à n'en pas abuser. M. Darverne avait besoin d'elle et il l'aimait. Là était sa force qui, en fin de compte, la faisait maîtresse de la situation, puisque de son côté, elle n'avait pas besoin de son mari et ne l'aimait point. Les violents sont faibles. Leur sang les pousse aux extrêmes et leurs nerfs les abandonnent aussitôt la lutte finie. Plein d'élan, de volonté, de résolution, d'initiative, de courage et de persévérance dans l'action, M. Darverne devenait une femme quand le danger était passé. Alors il se croyait abandonné par ses amis, menacé par ses adversaires, et il fallait le soutenir et le relever. Lors du coup d'État, il était un de ceux qui, par son ardeur, ses reproches, ses colères, ses prières, avaient entraîné et poussé Louis-Napoléon hésitant. Que dans le Conseil, au Sénat ou à la Chambre, il rencontra la contradiction ou l'opposition, et il se jetait dans la mêlée avec l'impétuosité de son caractère, ne ménageant rien ni personne, ni lui ni les autres. Mais rentré chez lui et la sueur du combat séchée, alors même qu'il était victorieux, il se croyait perdu, trahi, et il se laissait aller défaillant, en proie à tous les doutes, à toutes les inquiétudes. C'était en ces heures qu'il venait à sa femme et qu'il fallait que celle-ci le consolât, le rassurât, lui fît toucher du doigt les chimères de son imagination affolée. C'était l'heure aussi où il fallait qu'elle pansât son orgueil en lui disant, en lui répétant qu'il était le plus grand, le seul ministre de l'Empire, dévoué. Il tenait par-dessus toutes les autres à cette qualité qu'il avait bien méritée d'ailleurs. Mais, de plus, le seul homme de tête et de résolution du Conseil. Le connaissant ainsi, et se connaissant bien elle-même, elle jugea que, dans cette affaire de l'appartement du duc de Nauruz à Vaupéreux, il était de sa dignité, et surtout de son intérêt, de traiter la question de haut, en l'abordant franchement, comme la chose la plus simple et la plus naturelle. M. Darverne n'eut rien dit de cet ameublement. Elle l'eût peut-être payé elle-même en demandant la somme nécessaire à son père, sa suprême ressource quand elle était aux abois. Mais il avait parlé et cela l'obligeait à ne pas reculer. Il devait payer lui-même. Lorsqu'elle reçut la note du tapissier, M. Darverne n'était point à Vaupéreux. Il était à Paris, d'où il n'avait pas pu venir depuis plusieurs jours. Elle partit aussitôt pour Paris. En la voyant entrer toute fraîche en sa toilette de campagne et exhalant un parfum de fleurs, il eut un sourire. Il n'était point habitué à ce qu'elle vînt ainsi le surprendre, c'était presque pour lui une bonne fortune. Vivement, il se leva pour aller au-devant d'elle et, lui ayant pris la main, il lui embrassa le bras au-dessus du gant. Mais dans cette main, il y avait un rouleau de papier.
« Bon Dieu, qu'est-ce là ? » dit-il.
« Un mémoire que je vous apporte, celui du tapissier. »
Il le prit et le jeta sur son bureau avec un geste saccadé.
« C'est que je voudrais bien qu'il vous fût possible de l'examiner, » dit-elle d'une voix nette.
« Plus tard.
Je n'ai pas l'habitude de commander souvent moi-même, mais ce que je commande, j'ai l'habitude de le payer. J'ai promis un fort compte au tapissier. »
Brusquement, il se tourna vers elle, et pendant plusieurs secondes, il la regarda. Sous ses sourcils touffus qui commençaient à grisonner, ses yeux noirs lançaient des lueurs sombres. Tout à coup, il ouvrit violemment un tiroir de son bureau, d'où il tira une grosse liasse de billets de banque.
« Voici ce que l'empereur vient de me donner, » dit-il d'une voix rauque, à l'instant même après le conseil. C'est le dernier terme du subside mensuel qu'il m'a accordé depuis le mois de juillet de l'année dernière. Maintenant, il n'y a plus rien à attendre, rien à demander, ou je sacrifie ma position menacée. Vous savez comment et par qui. Morny, Persigny,
qui ne peuvent pas me pardonner ma fidélité et mon dévouement, me font une guerre acharnée et me battent en brèche de toutes les manières auprès de l'empereur, à Paris, à l'étranger, dans les journaux dont ils inspirent, dont ils écrivent peut-être même les correspondances. Et voilà le moment que vous choisissez pour venir me dire « Je dois payer ce que j'ai commandé ».
Je n'ai pas choisi ce moment.
Il avait parlé jusque-là en se contenant difficilement.
C'était celui de la commande qu'il fallait choisir, s'écria-t-il.
Pourquoi l'avez-vous faite, cette commande ?
Violemment, il lui saisit le bras et, se penchant sur elle,
« Pour qui ?»
Elle ne broncha pas et, de haut, elle le regarda, immobile et froide comme la pierre. Il s'enfonça la tête entre ses deux mains et resta ainsi assez longtemps. Puis, allant à son bureau, il prit le mémoire et l'ouvrit, allant tout de suite au total.
« 22 000 francs ? Et vous connaissez ma position ? Vous savez que si l'empereur ne me vient pas encore en aide, dans 6 mois, dans 1 an, il me faudra vendre vos perreux qui me dévorent. »
« À qui la faute ?
À qui ? Ah, à moi, vous avez raison, à mon orgueil de père qui a voulu que notre aîné, à qui j'ai gagné un titre, trouvât une terre seigneuriale dans mon héritage. Vous sied-il, à vous, sa mère, de me le reprocher ? Il est vrai, et je vous évite la peine de me le faire observer, il est vrai que toutes les dépenses que j'ai faites ne l'ont point été dans un intérêt d'avenir, et qu'il est des travaux qui ont été entrepris dans un intérêt immédiat, celui de vous plaire, de vous faire aimer cette terre où j'avais l'espérance de passer quelques jours de bonheur avec vous.
Ah, Valère, Valère !»
Sa voix eut un sanglot, étouffé dans sa gorge par l'évocation des espérances passées, se heurtant si cruellement à la réalité présente.
« Ah, Valère » murmura-t-il encore. « Valère !»
Bien que l'accent de ce cri fût déchirant, elle garda son calme, elle attendait. Avec l'expérience qu'elle avait du caractère de son mari, elle était toute surprise qu'il ne se fût point encore laissé emporter par ces accès de violence qui étaient si fréquents chez lui et qui, par un retour tout naturel, aboutissaient finalement à un accès de tendresse. C'était la tendresse qui précédait la colère. Ce n'était pas ordinaire et la déroutait. Il est vrai que les efforts qu'il faisait étaient manifestes et qu'à chaque instant, il s'arrêtait dans ce qu'il disait pour retenir certaines paroles qu'il ne voulait pas laisser échapper.
« Si j'avais su que cette somme du temps vous coûtait, je l'aurais demandée à mon père, » dit-elle.
« Vous ai-je donc jamais dit qu'une somme me coûtait ? Vous ai-je jamais refusé l'argent qui vous était nécessaire ? Reprocher celui que vous aviez dépensé ?
En tout cas, ce reproche serait bien ridicule à propos de cette dépense qui, en réalité, comme toutes les vôtres, profite à cette terre. »
Ce mot fut l'étincelle qui provoqua l'explosion que Madame Darverne avait été surprise de ne pas voir se produire encore. Violemment, furieusement, il se frappa la poitrine.
« Vous osez dire, s'écria-t-il, que c'est pour votre fils que vous avez ordonné cette dépense, pensant à lui comme j'y pense moi-même. Vous osez mêler son nom à cette infamie ? Vous ? Vous ? Ah, c'est là le dernier outrage et le plus misérable !»
Il vint à elle, frémissant de la tête aux pieds, écumant, les deux poings levés et serrés comme s'il voulait l'écraser.
« Dieu m'est témoin que je voulais vous ménager ! Depuis que vous m'avez donné ce mémoire, je ne sais comment j'ai pu me contenir. Je me suis contenu cependant, mais je suis à bout. »
Il s'éloigna d'elle en reculant et, arrivé à son bureau, il prit une liasse de billets de banque sans compter, au hasard, les froissant dans ses mains crispées. Puis, revenant, il lui posa ses billets sur le visage rudement.
« Je vous ferme la bouche avec cet argent. Ne parlez plus, ne me demandez plus rien. » Payez vous-même cette dette qui est la vôtre, et maintenant laissez-moi. Vous voyez bien que je vous tuerai si vous restiez.
Vous êtes fou, dit-elle en passant devant lui. La réflexion vous rendra la raison.
Il tomba anéanti sur un siège, et il resta là, écrasé, la tête inclinée sur ses genoux.
Quand il se releva, il alla à une glace et se regarda. Puis, lentement, à plusieurs reprises, il se passa la main sur le visage pour en effacer, en le pétrissant, les contractions qui le crispaient. À plusieurs reprises aussi, il essaya, mais vainement, de respirer à fond. Sa poitrine étranglée ne se soulevait pas. Enfin, il vint se rasseoir devant son bureau et sonna. « Faites entrer, monsieur le ministre de S. » dit-il.